Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 28 décembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Fin du pétrole russe pour les pays utilisant le prix plafond. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, rencontre le sultan d'Oman à Mascate. Il est porteur du message du président Raïsi. L'ONU dénonce les interdictions d'emploi et d'éducation émises à l'encontre des femmes par les talibans. Et puis la crise énergétique, l'Élysée demande aux Français de se chauffer au bois. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en visite officielle à Mascate, a rencontré ce mercredi le sultan d'Oman. Le très haut diplomate iranien a rencontré le sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq, ce matin 28 décembre à Mascate et lui a présenté le message du président iranien Ibrahim Raïsi. Téhéran et Mascate ont toujours tenu des consultations régionales et internationales bilatérales sur des questions importantes et d'intérêt commun, a déclaré Hossein Amir Abdollahian à son arrivée à Oman mardi soir. Il a poursuivi « Oman est le sens du dialogue régional sur diverses questions, tant dans le cadre des questions liées à l'Iran que dans le cadre des crises régionales. Les hauts responsables d'Oman ont toujours joué un rôle bienveillant », a-t-il salué. Cette visite est l'occasion de faire le point sur les questions bilatérales et donner une suite accélérée aux autres sujets, a-t-il ajouté. Je suis le porteur du message du président iranien Ibrahim Raïsi au sultan d'Oman. Je transmettrai son message lors des pourparlers de mercredi. Les autorités omanaises ont toujours joué un rôle positif et constructif pour approcher les points de vue de diverses parties et parvenir aux étapes finales d'un accord, a indiqué le chef de la diplomatie iranienne. Selon les statistiques de la FAO, malgré la sécheresse, l'Iran occupe des positions très élevées dans le classement mondial de la production de vins produits agricoles. Les dernières statistiques publiées par l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies, FAO, montrent que l'Iran est l'un des plus grands producteurs de produits agricoles au monde. Malgré la sécheresse de 2021, l'Iran occupe toujours de bonnes places dans le classement mondial en termes de production de divers produits agricoles. Selon les statistiques de la FAO, l'Iran s'est classé de 2 à 9 dans la production de 20 produits agricoles, y compris des produits importants tels que les noix, les dattes, les pistaches et le miel. Le meilleur classement de l'Iran dans la production de produits agricoles cette année a été lié aux pistaches. L'Iran, avec la production de 135 000 tonnes, est connu comme le deuxième producteur de pistaches au monde après les États-Unis, qui occupent la première place, avec une production de 523 000 tonnes, et la Turquie occupe la troisième place avec 119 000 tonnes. L'ONU dénonce les interdictions d'emploi et d'éducation émises à l'encontre des femmes par les talibans. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les talibans à annuler les politiques ciblant les femmes et les filles afghanes. Le Conseil a exhorté les talibans à rouvrir les écoles et à supprimer les restrictions à la participation des femmes et des filles à l'éducation. Le Conseil a également condamné l'interdiction faite aux femmes de travailler pour les ONG, mettant en garde contre les conséquences désastreuses sur les opérations d'aide dans le pays. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les restrictions étaient des violations injustifiables des droits de l'homme et devaient être révoquées. Les médias yéménites affirment que les attaques de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les zones frontalières du Yémen ont tué et blessé près de 3000 personnes rien qu'en cette année. Selon l'agence de presse Saba, plus de 2000 personnes ont perdu la vie ou ont été blessées dans les attaques de missiles et d'artillerie de la coalition d'agression saoudienne dans la province de Saada. Les migrants africains font également partie des victimes, a déclaré l'agence de presse, sans en préciser le nombre. Toujours selon la source, la coalition avait intensifié ses attaques dans les zones frontalières ces derniers mois. Les frappes ont violé un cessez-le-feu négocié par l'ONU, qui était en place entre avril et octobre cette année. L'Arabie saoudite et certains de ses alliés régionaux ont lancé la guerre contre le Yémen en 2015. Des centaines de milliers de Yéménites sont morts depuis. Ce conflit a généré la pire crise humanitaire et de développement épouvantable au monde, selon l'ONU, qui estime que seule la paix pourrait stopper la catastrophe humanitaire en cours et relever le pays. Enfin, le gouvernement français a décidé de payer une aide de 50 à 200 euros à destination des 2,6 millions de ménages qui se chauffent principalement au bois. Les autorités françaises insistent sur ce fait que la crise énergétique n'a pas affecté la France, mais la réalité montre que les pénuries du carburant et la hausse des prix frappent en plein fouet la société française. Pour atténuer les effets de cette crise, l'Élysée encourage la consommation du bois pour se chauffer et même pour cuisiner. Plusieurs sociétés françaises lancent des publicités sur les chaînes de la télévision de l'État français en vue d'inviter les familles à acheter des cheminées et même des poêles et de fours à bois. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Du pétrole russe pour les pays utilisant le prix plafond. La Russie interdira à partir du 1er février 2023 la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe fixé début décembre à 60 dollars par baril par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. La livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est interdite si ceux-ci utilisent le prix plafond, est-il écrit dans un décret signé ce mardi 27 décembre par le président russe Vladimir Poutine. Seule une décision spéciale de Vladimir Poutine lui-même pourra permettre la livraison de pétrole russe à un ou des pays qui ont mis en place le prix plafond ces dernières semaines, est-il indiqué dans le décret. Le document entre en vigueur le 1er février 2023 et est valable jusqu'au 1er juillet 2023. L'interdiction d'approvisionnement en pétrole instaurée par ce décret sera appliquée directement à partir du 1er février. L'interdiction de l'approvisionnement en produits pétroliers russes sera appliquée à partir de la date déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le gouvernement a été chargé de fixer cette date et d'adopter des actes visant à mettre en œuvre l'interdiction correspondante. Le ministère russe de l'énergie a été chargé de surveiller régulièrement la mise en œuvre de l'interdiction. Avec le ministère des Finances, il est habilité à donner des éclaircissements officiels sur l'application du décret. Le contrôle de sa mise en œuvre est confié au groupe de travail interministériel. Début décembre, les 27 États membres de l'Union européenne, les pays du G7 et l'Australie s'étaient mis d'accord, après des mois de négociations, sur un plafonnement du prix de pétrole russe à l'export à 60 dollars par baril. Dans les faits, seul le pétrole vendu par la Russie à un prix égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant son transport maritime. L'objectif d'une telle mesure est de priver Moscou de revenus importants pour financer son opération militaire en Ukraine. L'interdiction par la Russie de vendre son pétrole aux pays qui plafonnent le prix de ses matières premières, à savoir pays du G7, Union européenne et Australie, va provoquer une hausse significative des prix. Selon les commentateurs, une telle réaction de la part de la Fédération de Russie était tout à fait attendue. Ils expliquent les gros volumes d'achat de pétrole de la Russie par l'opportunisme économique. Maintenant, quand vous devez prendre cette matière première ailleurs, vous devez payer plus, commentent les experts. Pour les experts, la combinaison d'une baisse des volumes de production avec un retour progressif de l'économie chinoise à son état antérieur pourrait faire augmenter de manière significative les prix mondiaux du pétrole. La Russie est un acteur extrêmement important sur le marché mondial du pétrole et la réduction de la production peut avoir un effet significatif sur les prix du pétrole. Toujours selon les experts, les prix des matières premières augmentent en raison du fait que dans quelques années, le volume de pétrole consommé dans le monde augmentera à un niveau sans précédent, tandis que les investissements dans la production de pétrole diminueront.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations qui se sont déroulées en France, pas seulement ces derniers jours, mais en général, où on peut voir pas mal de violences policières de manière régulière. Manifestation était maintenant synonyme en France de violence policière? C'est la question d'aujourd'hui. Comme le veut notre format débat, je vous propose d'abord de regarder notre reportage pour par la suite accueillir nos invités. Tout de suite le reportage.
Des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en marge du rassemblement organisé samedi à Paris pour rendre hommage aux trois Kurdes tués par un homme armé dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au moins 4 voitures ont été renversées, dont au moins une incendiée et des poubelles brûlées sur le boulevard du Temple, près de la place de la République. Les forces de l'ordre visées par des jets de projectiles ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi à la mi-journée, place de la République à Paris. Dans la foulée, de nombreux manifestants agitaient des drapeaux du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, ou à l'effigie de 3 militants kurdes assassinés en janvier 2013 à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP. Une minute de silence a été observée en musique à la mémoire des victimes et de tous les Kurdes de mort pour la liberté. Plusieurs manifestants présents samedi ont dénoncé auprès de l'AFP une injustice et un acte terroriste et politique. Trois personnes d'origine kurde, deux hommes et une femme ont été tués par balles et trois autres blessés vendredi 23 décembre à Paris par un homme qui a dit avoir agi parce qu'il était raciste. Peu avant midi, un homme a ouvert le feu près du centre culturel kurde Ahmed Kaya, situé au 16 de la rue Denilienne, dans un quartier animé de 10e arrondissement de Paris, prisé de communautés turques et kurdes. Une femme et deux hommes sont morts. Selon le dernier bilan, un homme est toujours sérieusement blessé. Deux autres le sont aussi, mais moins grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans l'après-midi. Il a précisé que deux des victimes ont été tuées devant le centre culturel kurde. Le troisième a été tué dans un restaurant kurde, proche où il tenait de se dissimuler après avoir été poursuivi par l'assaillant présumé. Légèrement blessé au visage, ce dernier a été interpellé après avoir été maîtrisé par plusieurs personnes dans un salon de coiffure à proximité. Une mallette contenant deux ou trois chargeurs approvisionnés, une boîte de cartouches calibre 45 avec au moins 25 cartouches à l'intérieur a été découverte près de lui selon une source proche du dossier. L'arme utilisée est un Colt 45 de 1911 de l'armée américaine d'apparence usée. Il a été depuis placé en garde à vue, enquête ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat, violence volontaire avec arme et infraction à la législation sur les armes a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire, a indiqué le procureur de Paris, Laure Bécaud, venu sur place peu après les faits.
Nous revoilà sur les plateaux de télévision. Donc, nous allons accueillir tout d'abord nos invités. Tout d'abord, je vais commencer par M. Jacob Cohen, analyste politique, écrivain également. Bonjour, M. Cohen.
Bonjour.
Ravi de vous avoir sur nos plateaux, ravi de pouvoir avoir votre expertise. Notre deuxième invité, M. André Chamy, juriste international, notre deuxième expert de la journée. Bonjour, M. Maître André Chamy.
Bonjour à vous tous, bonjour à vos téléspectateurs, ainsi qu'à M. Cohen.
Alors, comme vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui représente un peu les manifestations en France. Est-ce que manifestation maintenant en France est synonyme de violence policière? Il suffit que des gens décident de manifester, quel que soit le nombre de personnes, et ça se finit souvent en violence dans les rues. Nous avons vu les dernières images qui ont eu lieu à Paris. Monsieur Cohen, nous allons commencer par vous, si ça ne vous dérange pas. Alors, que révèle ce genre d'images et d'événements qui arrivent assez souvent et régulièrement dès qu'il y a des manifestations en France?
En fait, plutôt politique. Il y a un courant, je crois, non? Allô?
Je vous écoute. Bon. Oui, allez-y.
D'accord. En fait, la dimension violente est une question politique. C'est-à-dire, il y a des manifestations qui peuvent réunir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers, mais si elles portent sur des circonstances ou que le pouvoir n'a pas envie de réprimer, elles peuvent très bien se passer. S'il y a violence, de la police, c'est pas qu'il a voulu. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les gilets jaunes, ils auraient très bien pu manifester dans le monde. Mais on leur dit deux obstacles pour montrer que ce sont des gens violents. D'une part, on les manifestants, c'est-à-dire, on les met dans un piège dont ils peuvent sortir que par la. Et donc, tu peux l'exprimer, ou bien utiliser des plaques, donc, c'est-à-dire ces actes en deux couches volantes qui sont manipulées par la police. Donc, en fait, la violence, il faut la voir comme un moyen police aux mains du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, qui a raison particulière de mais dans la violence, de montrer que les manifestants sont violents et qu'on ne peut les contrer que par la violence. Donc, il faut peut-être être capable de voir, bien chercher, pour que le gouvernement n'a pas laissé en manifester dans le calme. Voilà.
Ça veut dire qu'en France, les manifestations pacifiques ne peuvent pas exister, que ce n'est pas possible de pouvoir aller dire dans les rues ce qu'on réclame, soit du gouvernement, soit de notre insatisfaction, sans se retrouver face à ces scènes de violence. C'est devenu impossible en France ?
Elle existe d'ailleurs. Il y a eu, par exemple, les manifestants sur les écologies, par exemple. Elles se passent très bien. Sur les femmes, j'ai oublié l'accord violent qui manifeste contre la pression des hommes. Il peut y avoir 100 000 personnes, ça se passe très bien. Pourquoi ? D'abord, il n'y a pas de présence publique. La présence des publics est un élément de tension. Lorsque vous avez des manifestants qui sont encadrés par des policiers, par des dizaines de cas, lorsqu'ils sont nassés, lorsqu'ils sont piégés dans des cours, donc en fait, la police cherche l'affrontement. Donc, s'il cherche l'affrontement, c'est que l'objectif politique faire sortir que les manifestants sont violents et qu'il faut les réprimer. Et aussi, c'est un message à ceux qui voudraient rejoindre ces manifestants, par exemple, les gens, il y a des dizaines de milliers de personnes qui pourraient vous le faire, mais qui ont peur d'avoir un incubé ou un rajout. Et donc, c'est la violence exercée, suscitée par la police, est un moyen de politiser, est un moyen de dissuader les gens et de punir sévèrement ceux qui manifestent. Et je dirais ceci, c'est que ceux qui manifestaient par exemple contre le mariage homosexuel, ça s'est bien passé parce que le gouvernement l'a voulu ainsi. Voilà.
Merci, Monsieur Kouaï. Une dernière demande. On parle d'extrémisme de droite à l'heure actuelle en Europe qui est extrêmement forte. Finalement, l'homme qui a été arrêté, qui est responsable de ces meurtres, beaucoup de Kurdes ont réclamé le mot de terrorisme pour le décrire. Plusieurs politiciens en Europe et dans le monde ont averti de l'extrémisme de droite. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est un plus grand danger que n'importe quel autre contre terrorisme à l'heure actuelle ?
Parce que la droite est liée, une droite, disons, nationale, patriotique, anti-européenne, qui n'est pas pour les solutions, par exemple, contre la rue, qui font plus de mal que les Européens. Cette droite-là, c'est elle qui est battue par tous les mouvements. Et on l'a passé pour expliquer, par exemple, cette droite qui est globalement contre la vaccination obligatoire, contre l'exclusion des soignants, les soignants non vaccinés. Donc, en fait, c'est cette droite populiste qui veut dire aux valeurs des nations, aux valeurs de la famille, sont très mal vues par le pouvoir, les pouvoirs européens, le pouvoir de la loi. Et donc, ils sont à la ligne de vie des pouvoirs. Par exemple, l'arrestation de quelques monarchies en Allemagne, récent. Et on a tenté comme une tentative d'État. Et c'est quand même. D'abord, ce mouvement-là était certainement assisté par la police. Puis quand on voit les images de vieux anarchistes qui veulent établir la monarchie, on a envie de voler. Malheureusement, on n'a pas tellement envie de vivre parce que la droite, tout ce qui touche à la droite, c'est qu'en Europe, il y a touche cette hantise de la droite, parce que à qui on passe, etc. Mais c'est un argument qui prend de moins en moins. Et donc, mettre paquet pour effrayer les plus.
Merci, Monsieur Cohen. Alors, nous allons vers notre deuxième invité, Monsieur André Chamy. Vous-même, que pensez-vous donc de ces actes d'extrémisme de droite ? Je veux dire, certains grands politiciens, même de l'Union européenne, aux États-Unis, on a vu également le résultat. Cet extrémisme de droite est dangereux. On ne parle pas forcément de terrorisme. C'est pas comme ça que les médias occidentaux en parlent. Mais beaucoup de gens ayant fait face à ce genre d'actes ont parlé de terrorisme de droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est réellement un danger ? Et l'importance que ça peut avoir à l'heure actuelle en Europe, parce que beaucoup de gens disent que derrière les manifestations, il y a des gens qui viennent juste pour, voilà, si ce sont, par exemple, on a vu les manifestations qui ont eu lieu lors de la Coupe du Monde, lors des résultats du Maroc, c'est pas forcément seulement les représentants des drapeaux marocains qui ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe réellement derrière ces manifs? Est-ce que c'est vraiment des actes d'extrême droite qui sont derrière et qui provoquent?
Alors, on ne va pas tout mélanger. Il y a plusieurs choses. Il y a la première chose, c'est la manière dont la police française gère ce type de manifestation. Effectivement, parfois, la police éprouve certaines difficultés pour encadrer certaines manifestations et se trouve parfois débordée. C'est la raison pour laquelle elle ne lui reste en quelque sorte que la violence, c'est-à-dire essayer de mater ceux qui débordent, et à ce moment-là, effectivement, vous avez des difficultés, y compris dans la circulation, c'est-à-dire ceux qui veulent même quitter les manifestations sont en quelque sorte en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dès que les actes de violence commencent. Mais les actes de violence commencent, chacun essaie de renvoyer la responsabilité sur l'autre, c'est-à-dire vous avez les manifestants qui renvoient la balle chez les policiers et les policiers renvoient la balle par rapport au début des violences en disant que c'est des manifestants. On n'a jamais vraiment une image claire parce que c'est un instant T que les choses peuvent démarrer, parfois par une petite provocation, parfois il y a un énervement, mais surtout parfois il y a un problème d'effectif, c'est-à-dire aujourd'hui les ministères de l'Intérieur n'arrive pas à gérer certaines manifestations parce que l'effectif de la police, et notamment ce qu'on appelle la police anti-émeute, est limité, et surtout par rapport à des manifestations qui se déclenchent en quelque sorte du jour au lendemain. C'est-à-dire par rapport à cette situation que vous décrivez, c'est la veille pour le lendemain. Et les associations kurdes déclarent la manifestation pour le lendemain. Vous n'avez pas forcément le temps, ou en tout cas le temps suffisant, pour déplacer suffisamment d'effectifs parce que vous avez un problème global concernant l'effectif policier pour gérer ce type de, je dirais, d'événement. Et à partir de là, effectivement, c'est la violence qui l'emporte. Mais également, vous avez un problème par rapport à certains manifestants. Là, vous avez les manifestants kurdes qui sont sortis indiscutablement pour en découdre. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était une défiance à l'égard de l'autorité française. Et évidemment, ils voulaient marquer qu'ils sont dans leur quartier. Et à ce moment-là, il fallait qu'ils déploient un dispositif fort pour montrer qu'ils peuvent s'imposer. Évidemment, le ministère de l'Intérieur était ballotté entre la sympathie par rapport aux Kurdes qui se trouvent victimisés par l'événement et par rapport également au maintien de l'ordre. Et quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, ce n'est pas toujours facile parce que si vous imposez votre dispositif policier de manière importante, on va dire, regardez voir, il y a la police qui vient nous mater, mais en même temps, nous sommes les victimes. Et en même temps, vous avez ces gens qui ont envie d'en découdre, c'est-à-dire pour eux, c'était indiscutable. D'ailleurs, ils l'ont dit au cours des manifestants, ils voulaient s'imposer, ils voulaient montrer qu'eux, ils mènent une épreuve de force, y compris par rapport à la France, qui la considère comme responsable de ce qui leur arrive. D'ailleurs, ils disaient qu'on n'est pas protégé en France et la France ne nous protège pas. Et à ce moment-là, on reproche ce qui se passe au Moyen-Orient à la France, en disant « on a soutenu la France, on a soutenu les Occidentaux, on a soutenu, etc. » Mais en réalité, une confusion, il y a indiscutablement une confusion, pour ne pas dire un mélange de genres, entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe là, parce que là, c'est une réaction par rapport à un événement majeur, indiscutablement grave, mais il ne faut pas le lier à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est autre chose, puisque les Kurdes ont un rôle, en tout cas se sont attribués un rôle, se sont octroyés un rôle, qui est le rôle de subsidiaire des forces occidentales et des Américains, et voire parfois de l'entité sioniste. Et à ce moment-là, effectivement, ils n'ont pas toujours le bon rôle, si j'ose dire. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils combattaient contre Daesh, mais ils oublient de dire que c'est eux, par exemple, en Irak, qui ont facilité le passage de Daesh vers l'ensemble des villes irakiennes jusqu'à Mossoul. Et une fois que la Daesh est arrivée à Mossoul, à ce moment-là, bien entendu, Daesh s'est retourné contre les Kurdes. Et à ce moment-là, les Kurdes qui ont joué le rôle de facilitateur se trouvent, entre guillemets, pris en étau entre les Turcs d'un côté et et Daesh de l'autre. Raison pour laquelle ils ont fait appel, et là encore il faut le dire, à l'Iran, et c'est le général Soleimani qui est venu en personne à la demande de Barzani, qui ne trouvait de secours nulle part, y compris du côté des Américains, et ce sont les Iraniens qui les ont sauvés et qui ont apporté leur concours pour leur permettre de se protéger. C'est-à-dire les Kurdes jouent un rôle néfaste, pour moi, parce qu'il y a un côté, il y a une volonté de se créer une sorte d'entité à part, mais à l'intérieur de quatre pays, notamment l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, mais également ils veulent s'octroyer un rôle régional, c'est-à-dire dire on peut devenir je dirais, les subsidiaires des forces occidentales. Cela n'est pas bon pour les Kurdes, n'est pas bon pour les pays concernés, et évidemment ça ne sert que les intérêts des Occidentaux qui n'ont pas particulièrement un œil avisé par rapport à cette région-là. Ils s'en servent en quelque sorte, ils se servent des Kurdes comme des pions, et ils finiront malheureusement par payer le prix, ce qui est regrettable pour les Kurdes et ce qui est regrettable également pour les pays de la région. Et ça ne retient même pas la possibilité aux Kurdes de retenir cette leçon-là, et pourtant ça dure depuis des années. Ça,
alors,
c'est
pour
la première
pour revenir,
observation.
Pour revenir
observation.
Excusez-moi, pour revenir sur Paris, c'est la deuxième fois qu'il y a un attentat concernant les Kurdes à Paris. C'était également l'une des colères indiquées lors des manifestations. Mais pour revenir aussi à un autre sujet, ça a été donc les violences policières. Eh bien, forcément, l'Iran est intervenu à expliquer, étant donné qu'on a reproché à l'Iran, face à des manifestations qui ont été violentes, souvent faites soit à l'arme blanche, soit avec des armes réelles, qui ont été importées des pays étrangers, des frontières, grâce à l'aide de pays étrangers, l'Iran a donc indiqué que voilà, la France devrait également faire preuve de retenue face à la violence policière. Bien entendu, l'Iran en a profité pour bien montrer que vous voyez, vous êtes face à des violences, vous-même, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est de pouvoir arrêter les choses. Et l'Iran a bien montré que les violences policières étaient beaucoup plus régulières en France qu'elles n'ont pu arriver en Iran dans une situation, encore une fois, exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez à dire, là, quand M. Amir Abdullahian est intervenu, quand M. Khanani est également intervenu, porte-parole du gouvernement, et qu'est-ce que vous avez envie de dire face aux ces réactions iraniennes?
Les réactions iraniennes, je l'appellerai ces réactions, la réponse du berger à la bergère, parce qu'il y a quelques semaines, on reprochait à l'Iran et à la force de sécurité iranienne d'user d'un certain degré de violence à l'égard des manifestants qui sont venus pour semer le trouble dans beaucoup de villes. Apparemment, c'était un projet bien organisé, bien orchestré, avec une alimentation qui venait de l'étranger. Mais il n'y a aucun État au monde, hein, qui arrive à gérer de manière exemplaire ce type de manifestation. Ça n'existe pas. Les États-Unis n'y sont pas parvenus quand il y a eu les manifestants, ce qu'ils ont appelé à l'époque les révoltés de Wall Street. Mais il n'y a pas que. Quand il y a eu l'entrée des manifestants, même à l'intérieur du Congrès, ce n'était pas facile non plus de gérer. Et il a fallu une intervention de force, mais cela n'a pas suffi, puisqu'ils ont pu parvenir à accéder au Congrès, ils ont pu l'occuper, et par conséquent, créer, semer le trouble, au point de parler d'un coup d'État. C'est-à-dire, même les États-Unis ne sont pas à l'abri. La France n'est pas à l'abri non plus, parce que constamment, effectivement, comme l'a rappelé M. Cohen, il y a des manifestations qui aboutissent à des débordements et à des violences policières. Mais encore une fois, la question de la violence policière est une question délicate. Aucun État n'a pu parvenir à trouver une solution radicale à ces questions-là. Parce que quand vous avez des manifestants qui veulent en découdre, ou bien des personnes infiltrées dans les manifestations pour justement provoquer le désordre, eh bien évidemment, la police finira par mélanger ceux qui veulent manifester avec ceux qui viennent pour en découdre. Et évidemment, vous aboutissez à des situations pour le moins compliqué. Et c'est la raison pour laquelle personne n'a à donner de leçons aux autres. La France n'avait pas à donner de leçons à l'Iran, mais en réalité, pour être clair, la leçon par rapport à la violence policière n'était pas par rapport à la violence policière, parce qu'en réalité, c'était contre le régime, parce qu'on voulait se payer, si j'ose dire, la tête du régime. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe autour et la volonté de discréditer le régime, de mettre en cause toute l'institution et toute l'institution judiciaire, policière, politique, à travers uniquement des manifestations qui étaient circonstanciées et qui étaient ciblées. Ce n'était pas une manifestation ou des manifestations généralisées à travers tout le pays. C'était quelque chose de ciblé qui visait certains endroits et qui visait bien entendu certains symboles, moi j'appellerais. Et la France n'avait pas à donner ses leçons. Et là, aujourd'hui, la réponse du berger à la bergère en disant, regardez voir, même vous, par rapport à une manifestation unique concernant des gens qu'on appelle des radicaux ethniques, parce que c'est une manifestation ethnique qui visait à assurer une présence kurde et à montrer que la présence kurde peut être violente et doit bénéficier d'une protection particulière, et ben la France n'a pas pu y faire face et la police a dû avoir recours à la force. Il n'y a pas de leçon à donner, personne encore une fois ne peut le faire. Par contre, il faut toujours se rappeler d'une chose importante, la situation politique n'est pas systématiquement alliée à des manifestations. Les manifestations peuvent avoir des objets bien précis. Quand il y a eu les gilets jaunes, il y a eu une mise en cause de la politique menée par le gouvernement, mais ce n'était pas une mise en cause de la République. C'est-à-dire, ce n'était pas une volonté de créer la révolution pour faire sauter la République. C'était un gouvernement qui menait une politique mauvaise pour la population, mauvaise pour l'opinion publique, mais également mauvaise pour l'ensemble des classes, que ce soit la classe moyenne, que ce soit la classe défavorisée, et que ce soit de la classe d'origine étrangère ou pas. Et bien entendu, vous avez parfois des infiltrations des gens qui joue à l'extrémisme dans la violence, et la raison pour laquelle on s'en rappelle tous de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, mais pas que, il y en a qui ont même voulu aller à l'Élysée, parce que la volonté de casser du système politique français existait. Mais est-ce que c'était la volonté de casser la République ou c'était la volonté de casser les symboles politiques de cette République? Moi, je plaiderais pour le deuxième, parce que les gens ne voulaient pas changer de régime, ils ne voulaient pas basculer vers une anarchie, ils voulaient tout simplement cibler ceux qui prenaient les décisions politiques contre la classe populaire et contre la classe moyenne qui se trouvait, même si on utilise un terme fort, martyrisé par cette politique, et cela continue. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes probablement également à la veille de manifestations qui peuvent surgir à tout moment, parce que la situation économique dans le pays n'est pas très acceptable. Et moi qui suis plus proche de ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire que la situation n'est pas enviable en France, mais à quel moment ça peut se déclencher, personne ne le sait. Et il y a systématiquement des rapports de renseignements qui glanent en quelque sorte les informations par rapport aux activistes pour voir ce qui se passe ici ou là, si ça peut se développer ou pas. Et il y a des rapports qui remontent systématiquement, presque quotidiennement, par situation particulière, au ministère de l'Intérieur, via les préfectures, pour dire là il y a une situation risquée, là il y a une menace, ou là il y a quelque chose qui fermente, si j'ose dire, pour aboutir à quelque chose de plus important.
Je me permets de vous interrompre, je ne sais pas si nous avons encore le temps, mais juste à propos, c'est l'utilisation des médias. Je veux dire, à part les journalistes indépendants qui sont rendus sur place à Paris, c'est grâce à eux finalement que les réseaux sociaux ont pu obtenir les images de ce qui se passait. Par la suite, seulement les médias français en ont parlé ou ont diffusé ces mêmes images grâce à des reporters indépendants. En Iran, on a plus ou moins reproché également à Presse TV d'avoir suivi les manifestations, d'avoir juste suivi les rapports de police qui parlaient donc des actes terroristes qui se sont passés au sein du territoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui nous suivent, qui voient ces médias réagir et être finalement en train d'agir de manière injuste par rapport à chaque sujet?
Évidemment. Les médias que j'appellerais pro-pouvoir, ou en tout cas qui essayent de se montrer un visage indépendant, mais en réalité, il n'y a aucun visage indépendant parce que ces médias sont devenus endoctrinés pour une bonne part d'entre eux, et du coup, ça pose un problème par rapport à la diffusion de l'information. C'est-à-dire, vous avez, l'autre fois, on assistait à une manifestation où il y avait, et bien entendu, une protestation contre la participation de la France à la guerre, et le journaliste disait avec véhémence comme quoi il n'y avait rien. Et en parallèle, vous aviez des médias, entre guillemets, non officiels, qui diffusaient les informations et les images sur ces manifestations-là, qui démontrent qu'il y a une volonté de cacher la vérité, c'est-à-dire tout le monde ne partage pas la position de la France par rapport à la guerre. Je prends cet exemple-là.
Merci, Maître Chami. Je suis vraiment désolée. Le débat pourrait être extrêmement large, bien entendu, surtout vu ce qui s'est passé ces derniers mois au Moyen-Orient et également cette révolution dite de couleur qui se fait à base de ces manifestations. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie également M. Jacob Cohen pour sa participation. Moi, chers auditeurs, c'est ici que je vous quitte. Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à nous regarder, à revoir l'émission Débat sur nos différentes plateformes ainsi que sur notre site Internet. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine fois pour un nouveau sujet du débat ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran.
Chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Les funérailles de 400 martyrs inconnus de la défense sacrée ont eu lieu le mardi matin 27 décembre à travers l'Iran. Simultanément aux cérémonies de deuil marquant l'anniversaire du martyr de la vénérée Fatemeh Zahra, bénie soit-elle, fille du grand prophète de l'Islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les habitants de la capitale iranienne Téhéran ont assisté aux cérémonies de funérailles de 200 martyrs non identifiés de la guerre imposée par l'Irak sous le régime de Saddam, dont les restes ont été récemment exhumés. Une procession funéraire lors de laquelle les épris de la famille du prophète ont scandé des slogans tels que « Il n'y a de Dieu qu'Allah »,« Allah est grand »,« Abba l'Amérique »,« Abba les hypocrites » et ont ainsi renouvelé leur allégeance avec les idéaux de l'imam Khomeini, feu fondateur de la République islamique d'Iran, et de l'ayatollah Khamenei, leader de la révolution islamique. La présence de nombreuses personnes de différentes couches sociales à ces funérailles témoigne de la grande estime que le peuple iranien porte aux martyrs. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri, saluant les efforts conjoints déployés par les forces armées, les universités et les entreprises fondées sur la connaissance pour améliorer la puissance des drones iraniens, a affirmé que la République islamique d'Iran figure actuellement parmi les 5 premières puissances mondiales dans l'industrie des véhicules aériens sans pilote. S'exprimant devant les journalistes le dimanche 25 décembre, le général de division Mohammad Bareri a déclaré « Les drones iraniens peuvent effectuer diverses missions au plus haut niveau mondial avec une grande précision et une grande endurance de vol. L'Iran poursuivra ses plans visant à promouvoir ses capacités de drones et coopérera avec d'autres pays dans ce domaine pour répondre aux besoins du pays », a-t-il également ajouté. Il a une fois de plus rejeté les allégations selon lesquelles l'Iran aurait envoyé des drones en Russie pour être utilisés dans la guerre en Ukraine, affirmant que de telles accusations faisaient partie de la guerre psychologique de l'ennemi. « Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir arrêté 7 meneurs d'un réseau criminel lié au Royaume-Uni qui ont joué un rôle clé dans la récente vague d'émeutes à travers le pays. Dans un communiqué rendu public le lundi 26 décembre, l'Abba Sarallah du corps des gardiens de la révolution islamique, situé dans la province de Kerman, a annoncé que ses troupes avaient démantelé un réseau organisé, connu sous le nom de Zagros, directement dirigé par la Grande-Bretagne et composé d'éléments actifs contre la révolution islamique, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Selon le communiqué, le dit réseau a tenté de faire renverser le gouvernement iranien, en particulier durant les récentes émeutes qui se sont déroulées dans le pays et qui ont été déclenchées à la suite du décès d'une jeune femme iranienne au mois de septembre. Les forces armées iraniennes ont toutefois infligé un coup sévère au groupe lors d'une opération réussie en interpellant 7 personnes impliquées dans la planification, la gestion et la conduite des opérations sur le terrain lors des récentes émeutes, ajoute le communiqué. Parmi les personnes arrêtées, on compte plusieurs binationaux qui ont tenté de quitter le pays sans succès. Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré que l'expulsion des forces d'occupation américaines du sol syrien n'était pas très loin, compte tenu du succès des opérations des combattants des forces de la résistance populaire syrienne. Le peuple syrien, dans le nord-est du pays, écrit l'histoire de son héroïsme et de sa lutte contre les forces d'occupation américaines et leurs mercenaires, a tweeté le mardi 27 décembre le ministère syrien des Affaires étrangères. Le ministère a estimé que les forces de résistance rejetaient les forces d'occupation pour être garantes de la libération de la terre et de la restauration des droits du peuple syrien, affirmant que la perspective d'un pays se débarrassant des forces étrangères se rapprochait vite. Les États-Unis, qui dirigent la soi-disant coalition anti-Daesh, ont commencé au premier trimestre 2014 à créer des bases militaires dans l'est et le nord de la Syrie sous prétexte de combattre les terroristes de Daesh. Les troupes américaines y ont maintenu leur présence bien que la Syrie et ses alliés aient vaincu Daesh fin 2017. Au cours des dernières années, l'armée américaine a stationné ses forces et son équipement dans le nord-est de la Syrie. Le Pentagone prétend que leur déploiement vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes de Daesh. Damas, cependant, soutient que le maintien de la présence des troupes américaines vise à piller les ressources naturelles du pays. L'armée syrienne a fermé mardi 27 décembre la voie à un convoi militaire américain à Ramishli, dans le nord-est du pays. Le poste de contrôle de l'armée syrienne a empêché un convoi de véhicules militaires des forces américaines d'entrer dans le village de Tal al-Zahab, dans la banlieue sud de Ramishli, chef-lieu administratif du district du même nom dans le gouvernorat de Hasak, et l'a expulsé de la région, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. Le convoi militaire américain, composé de 5 véhicules blindés, a été contraint de faire demi-tour et de se rendre à son point de départ. Cela intervient quelques jours après que les forces d'occupation américaines stationnées dans le nord-est de la Syrie ont envoyé 95 camions citernes transportant du pétrole pillé syrien répartis en 2 convois distincts en direction de l'Irak. Les lots de pétrole volés ont été envoyés depuis la région de Jazira et des zones dans l'est de la province syrienne de Hasakeh vers le nord de l'Irak via les passages frontaliers illégaux d'Al-Mahmoudiya et d'Al-Walid, tard le 22 décembre. Le Parlement d'Oman a voté pour un projet d'amendement visant à proroger une loi interdisant les relations et les contacts avec Israël, alors que le régime de Tel Aviv fait face à des défis de plus en plus importants quant à ses espoirs d'intégration dans la région, 2 ans après que les États-Unis aient négocié des accords de normalisation entre le régime israélien et 4 pays arabes. Le Majlis al-Shura, ou Assemblée consultative d'Oman, composée de 86 membres, a voté pour amender la première clause de sa loi sur le boycott d'Israël afin d'inclure tout contact sportif, culturel ou économique pour les personnalités privées et publiques. L'amendement interdit également et spécifiquement les interactions en personne ou en ligne avec les colons israéliens. Le vice-président de l'Assemblée, Yaroub al-Harissi, a déclaré que l'amendement proposé par plusieurs législateurs étendra la criminalisation et le boycott de l'entité sioniste. L'amendement passe maintenant au débat du comité législatif du Majlis avant un vote final. La loi Omanen stipule déjà qu'il est interdit aux citoyens d'entrer en contact avec des individus ou des entités basées en Israël à quelque fin que ce soit, aussi bien directement que par l'intermédiaire d'un tiers. Mascate adhère officiellement à la position de la Ligue arabe, selon laquelle toute forme de relation diplomatique avec le régime sioniste est subordonnée à la création d'un État palestinien indépendant. ...223 Palestiniens ont été tués en martyr depuis le début 2022 dans les exécutions sommaires et les massacres intentionnels menés par le régime sioniste selon le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Saïd Abou Ali. Évoquant la multiplication considérable du nombre des prisonniers palestiniens et des cas de violation des droits de l'homme commis par les sionistes, Abou Ali a aussi et surtout reproché aux responsables israéliens leur politique de profanation de la mosquée Al-Aqsa ainsi que l'exil forcé imposé aux Palestiniens dont les domiciles sont démolis sous l'ordre des autorités sionistes. Le village palestinien d'Al-Araghib représente l'exemple parfait de cette politique. Ce village palestinien situé dans la région du Negev a été démoli pour la 211e fois le lundi 26 décembre au matin par des militaires israéliens. Les premières tentatives de démolition d'Al-Araghib remontent au 27 juillet 2010. À chaque fois, les habitants d'Al-Araghib ont réparé leur maison en utilisant des morceaux de bois et des revêtements en plastique pour contrer le plan d'exil forcé envisagé par le régime sioniste. Al-Araghib n'est pourtant pas le seul village palestinien à être aux prises quasi quotidiennement aux tentatives israéliennes de démolition et d'exil forcé. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.